Le vulgarisateur d'actualité sur les réseaux sociaux et chroniqueur à Rage Against le matin, Farnell Morissette, est avec nous. Farnell, comment ça va?
Ça va très bien. Vous autres, comment ça va?
Ça va très, très bien. C'est un peu la frénésie ici. C'est une belle journée ensoleillée. Je ne sais pas si tu as entendu tantôt, je disais la météo. Ça va être un 15 ou 16 degrés, à peine des nuages. Donc, probablement situation idéale pour ceux et celles qui voudraient profiter de l'éclipse solaire. À Londres, est-ce qu'on en parle pas mal aussi ou...
Ben c'est drôle, je pensais à vous, parce que tu sais, nous autres à Londres, pas voir le soleil pendant la journée, c'est pas mal la norme. Alors j'ai l'impression que vous allez avoir une expérience comme la mienne aujourd'hui.
Vous êtes tout le temps en éclipse solaire à Londres,
c'est ça
le problème. Hey Farnell, on aime ça les sondages, on aime analyser, on aime voir les différentes tendances. On se dit, oh, ok, on penche par là, hop, on penche un petit peu plus à gauche. Évidemment, quand je parle de sondage, je parle de le monde politique, avoir les différentes tendances pour les prochaines élections, entre autres provinciales. La question que j'ai pour toi, Farnell, pour commencer la discussion, est-ce que c'est trop tôt en ce moment pour suranalyser ou s'exciter de sondages politiques quand on est à 2 ans des prochaines élections provinciales?
Ah oui, c'est beaucoup trop tôt, là. Essayer de projeter puis s'imaginer ça va être quoi le prochain gouvernement, puis ça va être quoi la réalité politique du Québec dans 2 ans, 2 ans et demi, parce que les sondages vont d'une certaine direction à 2 ans des élections. C'est un peu comme essayer de prédire ça va être quoi la température dans 2 ans selon c'est quoi la température maintenant, là. Ouais. C'est improbable que ça reste de même.
Et sais-tu inquiète? OK. À quel point un parti politique, prenons la CAQ et le Parti québécois, à quel point le Parti québécois peut s'exciter des récents sondages et à quel point la CAQ doit s'inquiéter des récents sondages ou est-ce qu'on y pense juste pas parce que, comme tu viens de dire, on est à 2 ans des élections?
Ben, je pense que même si c'est trop tôt pour se faire une tête sur ce qui va arriver, certainement... les députés en sont conscients. Même si, tu sais, commencer à parler de projection de siège, c'est peut-être un peu théorique, ça envoie quand même un message très, très clair aux députés. Puis, veut pas, c'est les députés qui vont, après ça, les politiciens, les partis politiques, qui vont déterminer comment ça va évoluer dans l'avenir. Moi, j'ai l'impression que, présentement, tu sais, je regarde les projections, les sondages, à être un député de la CAQ, qui regarde, passer de 90 à une projection de 11 sièges, encore une fois, si l'élection avait lieu demain matin, ce qui est, ce que ça vaut, ce que ça vaut. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui regardent ça et qui ont peut-être un petit sentiment, un petit pincement d'anxiété là, qui doit les animer un peu, je pense.
On a beaucoup entendu parler de peut-être des transferts justement de la CAQ au niveau du Parti conservateur fédéral. Penses-tu que ça peut accélérer la chose, des sondages comme ça, même si on est à 2 ans des élections?
Je pense que ça doit certainement animer des discussions. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à voir, tu sais, demander à quelqu'un hey, « on va-tu prendre un café pour jaser de quelque chose? » quand les sondages lui montrent que il y a peut-être intérêt à regarder ailleurs que quand les sondages le mettent très, très solide. Est-ce que ça va se concrétiser après ça? Je sais pas. Puis je veux pas non plus animer le cynisme. Tu sais, il y a des raisons parfaitement légitimes que quelqu'un pourrait vouloir passer d'un palier de gouvernement à l'autre. Peut-être qu'il veut s'activer sur des champs de compétences différents. Là, tout ça, c'est parfaitement légitime. Mais mettons que c'est un facteur certainement important parmi plusieurs autres.
Oui, parce qu'on parlait quand même de gros noms comme Éric Girard, Geneviève Guilbeault, des gens qui sont habitués d'avoir des grandes responsabilités, d'avoir beaucoup de pouvoir. Donc là, si on devient simple député, on perd tout ça.
Si on devient simple député, puis il y en a beaucoup là-dedans qui doivent se dire, même ça, c'est un gros si. Présentement, encore une fois, loin dans l'avenir, mais ça doit ronger dans leur tête.
Et justement, on parle des sondages, puis la question va nous mener là, à notre sujet principal du jour. C'est une chose parler de sondages, mais après ça, ça devient intéressant, mais encore plus théorique, de parler de projection de siège. Et présentement, la CAQ se retrouve vraiment pas dans une belle position à ce niveau-là non plus.
Non, ils sont, en tout cas, encore une fois, selon les projections, moi je regarde les projections de QC 125, qui sont quand même un processus mathématique assez rigoureux, ils seraient à peu près à 11 sièges contre le 90 qui ont gagné aux dernières élections. Ça, il y a une grosse variabilité là-dessus, c'est sûr. Mais tu sais, moi, ce que je trouve un peu intéressant là-dedans, c'est que la CAQ est en train de souffrir présentement dans ces projections-là d'exactement le même phénomène qu'ils ont projeté au pouvoir initialement, l'espèce de distorsion démocratique que notre système électoral permet. Et puis, j'ai certainement l'impression qu'il y a peut-être des députés de la CAQ qui disent « Ouais, tu sais, notre promesse de réformer la mode de scrutin, on aurait peut-être dû la faire quand on avait la chance de le faire. »
Bien, parlons-en justement du mode de scrutin. On va souvent peut-être annoncer qu'on songe à peut-être modifier ou changer. Pourquoi, Farnell, on bouge jamais à ce niveau-là?
Ben, je pense que la raison est assez simple, c'est que pour changer le mode de scrutin, il faut que le parti politique au pouvoir veuille le faire. Ouais. Puis c'est assez rare quand les règles du jeu t'ont fait gagnant que tu veux changer les règles du jeu. Ça, c'est la réponse un peu cynique, mais je veux dire, tous les partis politiques, à peu près dans l'histoire, que ce soit du Québec ou du Canada, qui ont promis de réformer le mode de scrutin, une fois au pouvoir... S'il y a quelque chose qui est arrivé, puis bon, ça n'a pas fonctionné. Puis là, de là, après ça, quand on leur demande après, je pense que c'est François Legault qui avait dit que c'était quelque chose qui intéressait seulement une poignée de main d'intellectuels, puis les gens ne se battaient pas dans les autobus pour ça. Puis il a raison, tu sais, je veux dire, je ne suis pas en train de dire que le système actuel est une défaillance totale, là. Les gens semblent satisfaits de notre processus démocratique actuel, mais ça reste que ça mène à des distorsions de même qui en laissent plusieurs de moins en moins satisfaits.
Hey, Farnell, pour ceux qui ne seraient pas au courant, là, qui sont à l'écoute, là, comment ça fonctionne en ce moment, puis ensuite, quelles seraient les autres options, les autres façons de faire?
Le système actuel qu'on connaît assez bien, c'est ce qu'on appelle en anglais le « first past the post ». Le terme technique, c'est le système uninominal à un tour. Ça, c'est bien simple. Tu mets tous les noms sur ton bulletin de vote de candidat. Tout le monde choisit un candidat, puis celui qui a le plus de votes à la fin de la journée, c'est lui qui est élu. Le problème avec ça, c'est que ça mène à plein de choses comme on connaît, comme le vote stratégique. Si tu voudrais vraiment voter pour un candidat X, mais tu sais qu'il y a statistiquement très peu de chances de le remporter, bien, à place de voter pour la personne que tu voudrais qu'il te représente, tu vas te ramasser un peu à te sentir contraint à voter pour le moins pire, pour pas que le pire passe. Puis ça, ben, ça mène à toutes sortes de problèmes. Alors, c'est le système actuel. C'est pas comme ça que ça se fait partout dans le monde. Il y a plein de systèmes différents. Puis, je veux dire, on peut rentrer dans les systèmes qui avaient été proposés, là, mais je veux dire, pour comprendre le jeu actuel, là, c'est la façon la plus simple. Tous les noms, tu choisis un, celui qui a le plus de votes, c'est lui qui est élu.
Puis le grand problème de ça, c'est que tu peux être, mettons que, hypothétiquement, un parti est deuxième partout, mais premier nulle part. Il n'y a pas de député, il est zéro représenté, mais il peut avoir un bon pourcentage qui aurait voulu qu'il soit représenté.
Oui, ou ça peut mener à des distorsions régionales très importantes, comme on voit particulièrement présentement, ça avantage beaucoup le Parti libéral, que là où ils sont très forts. Alors, ils ont des premières places dans certaines régions du Québec, particulièrement à Montréal, et ils n'ont pas grand-chose ailleurs comparativement aux dernières élections. Le Parti québécois qui finissait généralement deuxième dans plein de circonscriptions, mais ils ont fini premier dans seulement 3 circonscriptions.
Oui, là, ça l'a amené le Parti libéral justement à être l'opposition officielle, alors qu'en pourcentage de vote, il n'aurait pas mérité ce titre-là.
Ben, il était à peu près ex-aequo aux autres partis d'opposition, mais ils ont eu beaucoup plus de sièges, certainement.
Et justement, par rapport à ça, on parle beaucoup du système proportionnel. Donc, de dire qu'on va donner des sièges selon le nombre de votes qu'il y aura des sièges réservés à ceci. Explique-nous un petit peu plus en détail comment ça fonctionnerait, ce système-là.
Il y a plein de façons différentes de faire des systèmes proportionnels. Je ne vais pas rentrer dans toutes les variantes, là, mais le principe essentiel, c'est qu'on va garder une certaine quantité de sièges. Dans certains systèmes, c'est tous les sièges, mais au Québec, il n'y a personne qui propose ça. Alors, une certaine quantité de sièges à l'Assemblée nationale qui vont être réservés aux partis politiques qui vont après ça être donnés à des membres des partis politiques selon une liste préétablie des partis politiques en fonction de la proportion du vote total que les partis ont eu. Alors, si on a, par exemple, comme on a eu aux dernières élections, un parti comme le Parti conservateur qui a eu à peu près 11 % du vote, mais zéro première place dans les circonscriptions, 11 % de ces sièges réservés proportionnels-là iraient au Parti conservateur. Alors, il y a des gens qui trouvent que ça fait en sorte que ça représente beaucoup mieux l'intention générale de l'électorat, parce que tous ces gens-là qui ont voté pour des partis qui ont eu peu ou pas de sièges seront quand même représentés par quelqu'un au parti. Il y a quand même, il faut comprendre, des problèmes avec ça aussi, c'est que, imaginez, là, vous êtes des candidats, vous êtes élus, mais vous êtes élus puis vous savez que vous êtes élus parce que vous étiez deuxième ou troisième ou quatrième sur la liste d'un parti. Pas parce qu'il y a des électeurs dans une géographie particulière qui ont voté pour vous. Pour qui vous allez travailler? T'sais, est-ce que vous allez travailler pour les électeurs qui vous ont élu ou est-ce que vous allez travailler pour le parti politique qui vous a mis assez haut sur sa liste pour que quand un siège soit disponible, il vienne à vous? C'est là qu'il faut quand même faire attention. C'est un pensez-y bien parce que ça donne beaucoup, beaucoup plus de contrôle au parti politique. Ça affirme la ligne de parti encore plus solide. Ça tend à augmenter la partisanerie. Puis je veux dire, il y a des cyniques là-dedans qui diraient ben, tant qu'à y être, donnons juste directement ces votes-là au chef de parti à l'Assemblée nationale, ça reviendrait à peu près au même.
Personnellement, toi, Farnell, est-ce que tu serais pour un changement ou est-ce que tu es est-ce que tu trouves que le système qu'on a actuellement fait à job, mettons?
Ben, il fait à job. Il n'y a personne qui est en train de dire qu'on vit sous une tyrannie, en tout cas pas sérieusement. Mais je pense qu'il y a quand même place à amélioration. J'aime pas trop l'aspect de donner plus de pouvoir aux partis politiques qui vient avec le système proportionnel, à peu près comme je viens de le décrire. Moi, ce qui m'intéresserait, je pense, puis ça aussi, ça fait partie de la discussion, ça a été proposé, c'est un système de vote préférentiel. Puis ça existe déjà, c'est ce qui se passe en Australie, par exemple. Le système de vote préférentiel, c'est notre système de vote actuel, sauf qu'au lieu de voter juste pour un candidat, quand tu arrives dans l'urne, tu choisis ton ordre de préférence. Ce qui fait en sorte qu'après ça, bon, ben, on, à la fin de la journée, on décompte tous les premiers choix. S'il n'y a pas un candidat qui a au moins 50% des premiers choix, celui qui en a eu le moins, il est éliminé. Puis tous les bulletins de vote qui avaient ce candidat-là comme premier choix, le deuxième choix devient le nouveau premier choix. Puis okay. On recommence le processus jusqu'à ce qu'il y ait un candidat qui reçoive au moins la moitié des premiers choix qui restent. C'est un système qui est plus compliqué. Oups, il y a un processus d'éducation à faire là-dedans. Mais qui encourage généralement les compromis, qui change beaucoup la façon que les gens pensent de leur vote aussi. Parce qu'au lieu de dire « Ah, j'ai perdu mes élections parce que la personne pour qui j'ai voté n'a pas gagné », ben ils peuvent se dire « Ah, j'ai pas eu mon premier choix, mais tu sais, j'ai eu mon deuxième choix. J'ai eu mon troisième choix. Ça me satisfait. Ça fait assez proche de ce que je voulais. Ça peut limiter le cynisme et surtout, ça élimine le besoin de faire une espèce de vote stratégique, de toujours voter pour le moins pire. Parce que tu sais que si ton premier choix n'est pas pris, ben c'est pas grave, ton deuxième choix va quand même être compté. Ça ne veut pas automatiquement dire que le moins bon va gagner contre toi.
C'est intéressant.
Oui. En terminant, Farnell, est-ce que avec le système préférentiel, on voit plus des votes justement pour le député de mon comté parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder plutôt que sur le parti en général?
Ça a certainement tendance à faire ressortir des personnalités plus fortes dans les élections parce que quand tu sais que ton vote ne va pas être perdu si tu votes pour un parti qui a très peu de chances de remporter l'élection ou qui a très peu de chances de former le gouvernement, quand tu sais que ton filet de sécurité, il est là, ton deuxième choix, ton troisième choix, ça permet de faire un vote, qu'on pourrait appeler un vote de confiance carrément, un vote de conscience en faveur de quelqu'un que tu te dis, ben, peut-être pas beaucoup de chance, mais au moins, je ne perds pas mon vote si je vote pour lui. Puis s'il y a plein de gens qui pensent ça, ben, des gens qui sont capables de se démarquer de cette façon-là sur l'échelle locale, sur le plan local, ça leur permet peut-être une meilleure chance qu'il y aurait eu autrement. Alors, c'est un des effets, je pense, qui est peut-être certainement à explorer. Puis, en tout cas, moi, je pense que ce serait intéressant de regarder les options différentes là-dessus aussi.
Comme toujours, Farnell, très, très, très intéressant. Farnell Morissette, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Je le dis tout le temps parce que je le crois sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Toujours de l'excellent contenu et une belle façon de vulgariser et d'expliquer ce qui se passe dans l'actualité. Farnell, merci beaucoup pour ça encore une fois ce matin. Toujours un plaisir.
Merci à vous. Bonne éclipse. Je vous souhaite de bien l'apprécier ou si ça passe et vous le manquez, ben la prochaine fois.
Et toi, à Londres, on te souhaite, cher ami, un petit peu de soleil une fois de temps en temps quand même.
Merci, je vais prendre le vôtre.
Hey, Farnell, merci pour ça. À bientôt.
Salut.
Farnell Morissette, allez le suivre. Je vous le dis, là, vous n'allez absolument pas le regretter. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Courte pause, on revient tout de suite après. Roger Ferland sera avec nous, ex-enquêteur du SPVQ. Très simple pour commencer la discussion. Est-ce que ce qu'on voit au grand et petit écran, les poursuites policières, est-ce que c'est le même dans la vraie vie? Ou est-ce que c'est complètement différent? On en parle avec Roger. Bougez pas, vous êtes à Rage Against le matin.